peu sur l'incroyable, on peut le dire, victoire du Canadien qui remporte sa série contre les Penguins de Pittsburgh. Mais maintenant, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que nous accueillons un ancien collègue du 98.5, notamment, narrateur, scripteur de l'émission Un souper presque parfait, de Tout le monde en parle, ex-membre de RBO, M. André Ducharme. Salut, André.
Monsieur Pauloud, soyez salué vous-même.
Madame Parisien est là André. Également.
Bonjour, André.
Madame Parisien, allô, ça va?
Ça va bien, toi?
Oui. Écoute, mais oui, mais oui. André, on t'a invité à titre de philosophe. c'est parce que on fait ça avec le dimanche matin, on fait ça avec tous nos invités, puis on se dit...
On est samedi, Paul.
Puis la pandémie...
Oui, c'est ça.
Non, mais
ouais.
Dimanche matin ou le samedi matin. Oui, merci, oui. Thérèse.
De toute façon, Paul, les journées sont abstraites maintenant. On ne sait plus quel jour on est.
C'est ça que j'ai
alors
dit.
C'est correct.
André, j'ai dit au début de la pandémie, on ne sait plus si on est mardi ou si on est vendredi.
Non, on ne sait plus rien, effectivement.
Comment as-tu pris ça autour du 12 mars, lorsque le Canadien jouait pas le soir même contre Buffalo, puis après ça, tout le reste du Québec s'est arrêté?
Oh, écoute, je te dirais que j'ai eu un début de pandémie très difficile parce que j'ai eu à gérer beaucoup de choses à ce moment-là. Le hasard a fait en sorte que mes parents sont entrés en résidence le 20 mars. Donc ça, c'était très, très inquiétant. On en a déjà parlé, Paul, j'ai un fils et mon petit-fils aussi, ils vivent à Hong Kong. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé que ça allait prendre pas mal de temps avant qu'on puisse se revoir. Je ne sais même pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir au moment où on se parle. Donc, ça a été un choc assez tough à vivre. Et puis, à ça s'est ajouté le fait qu'il fallait se revirer de bord pour changer la formule de Tout le monde en parle. Ça a été énormément de travail. On a vraiment travaillé très, très fort à ce moment-là. Mais là, je suis de retour sur mes pattes.
Mais dans le cas de Tout le monde en parle, tu l'as dit, c'est un exploit remarquable. Émission extrêmement importante le dimanche soir, en direct. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a donné le goût du direct pour la suite des choses?
Bien, je peux dire que Tout le monde en parle en formule montage convient parfaitement à une situation normale, de vie normale sans pandémie. C'est-à-dire que, t'en fais de l'entrevue, Paul, tu sais très très bien que quand on fait une entrevue, souvent, plus l'entrevue est longue, plus on va aller chercher quelque chose qui s'est jamais dit ailleurs.
Ouais.
Donc, en faisant Tout le monde en parle de la façon qu'on le fait, et tu as déjà été invité, tu sais comment ça fonctionne, en faisant une entrevue de 20-25 minutes avec un invité, c'est certain qu'il va probablement se passer quelque chose dans les 5 dernières minutes qui va surprendre et dont on va entendre parler par la suite. C'est sûr qu'en période de pandémie, on devait être collé sur l'actualité. On ne pouvait pas enregistrer le jeudi, diffuser le dimanche. En 3 jours, tout pouvait changer. Donc, je dirais que jusqu'à preuve du contraire, la formule directe convient à la situation qu'on vit présentement.
Mais écoute, la formule, moi, j'ai adoré ça. Je pensais pas, j'avais pas l'impression qu'on allait... tu sais, il y a du montage, puis là, tu te dis, on prend le meilleur, on fait de longues entrevues. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Ça a quand même resté... Ça a pas dénaturé l'émission, là. On était dans une... On dirait que les gens étaient plus... Allaient, comme on dit, vraiment au point les plus importants, plus rapidement.
Oui.
Ouais, mais on préparait l'émission différemment. Je dirais qu'au niveau de la préparation des entrevues, c'était un travail qui était beaucoup plus important. Fallait quasiment faire du montage avant de faire l'entrevue, dans une certaine mesure. Ça demande quand même beaucoup de temps. Mais il est arrivé des choses. Je vais vous donner un exemple de ce que le montage peut faire. Je me rappelle quand on a reçu, la deuxième fois qu'on a reçu Horacio Arruda, il venait de faire son espèce de vidéoclip où il dansait, tout ça. On avait des questions là-dessus. Danny a ajouté des questions là-dessus qui n'étaient pas prévues et les invités lui ont posé des questions là-dessus et par la suite, une des critiques qui a été faite, c'est « vous avez juste parlé de ça ». En montage, on en aurait enlevé facilement la moitié.
Ouais, c'est
et
ça.
On n'aurait pas eu ce moment-là qui en fait était un moment, c'est un peu dommage qu'on ait parlé autant de ça alors qu'on aurait pu parler d'autre chose, mais là on est en direct.
Oui.
Tu comprends? C'est ça la différence entre le direct et le montage.
Oui, mais tu vois, André, la différence aussi, c'est qu'habituellement, vous enregistrez le jeudi soir.
Oui.
Et
là,
s'il arrive quelque chose, une mise à jour d'un dossier, vous le faites soit en ajoutant un commentaire en surimpression à l'écran ou en disant une intervention. Sauf que là, écoute...
Vous ne pouviez pas.
On était... en mode quotidien de conférence de presse.
Absolument.
Le docteur Arruda était passé dans son point de presse de 13 heures avec le premier ministre, Mme McCann. Vous ne pouviez pas faire autrement?
Non, on peut. Comme j'ai dit, tant qu'on est dans ce mode-là, tant qu'on est dans cette vie parallèle-là, on va faire l'émission en direct, c'est clair. D'ailleurs, c'est annoncé, on va être en direct cet automne.
Ça, oui, pour l'automne, ouais. Parce que, évidemment,
mais là,
tu sais ce qui nous pend au bout du nez. Tu sais, la manchette partout, là, ce matin, c'est que le gouvernement se prépare, oui, pour la deuxième bataille.
Mais,
effectivement, oui.
Mais effectivement, ça avait été annoncé que vous seriez, que vous allez être, bien évidemment, en direct. Mais vous ne pourrez, oui, pas être. Pour un souper presque parfait, là, c'est comme pas, oui, possible.
Ben, des souper presque parfait, il n'y aura pas de souper. C'est-à-dire, ouais, que l'émission va exister. On a. Moi, honnêtement, c'est peut-être le fait que j'ai comme un 2 mois d'avance d'informations sur la pandémie, du fait que Hong Kong a commencé avant nous et je vois ce qui se passe là-bas. Je me dis que ça s'en vient ici. Hong Kong vit présentement une troisième vague, non pas une deuxième.
Imagine.
Ils vivent une troisième vague et la troisième vague, présentement, est plus forte que les deux premières.
Aïe,
fait que moi, je pensais à ça, je me disais, je pense pas que cet été, on va pouvoir s'asseoir autour d'une table, 5 inconnus, une équipe, ouais, de tournage. Alors, j'ai comme pensé, on m'a aidé à y penser, il y a des gens avec qui j'ai travaillé là-dessus, à une formule qui fera en sorte qu'on peut faire des tournages, c'est-à-dire que on va présenter, on a 10 ans de matériel, hein, il est arrivé toutes sortes de choses.
Oui,
alors, on va faire des émissions thématiques et on va les présenter, il va y avoir des nouvelles narrations. Et on va mettre les choses en contexte, on va expliquer des affaires, on va réunir des soupers finalement qui ont eu lieu à différents moments, mais on peut aller chercher des moments et les mettre ensemble et faire des thématiques.
OK.
Et jusqu'à maintenant, moi j'ai peut-être à peu près 3 semaines et demie, 4 semaines d'émissions sur lesquelles je travaille et que j'ai vu le résultat. Et c'est vraiment bien amusant, bien fun.
André, un peu plus tôt, oui, ce matin, Madame Parisien, ici, nous a confirmé le retour du bye-bye.
Oui.
Tu es un vétéran du bye-bye avec RBO, notamment des bye-bye, oui, qui ont été formidables. Et j'ai pris les devants, André, en onde,
oui,
un peu,
oui,
comme si j'étais ton agent. Je te verrais camper le personnage de François Legault dans le prochain bye-bye.
C'est curieux parce que, premièrement, je ne fais pas partie de l'équipe cette année. J'avais décidé, moi, de ralentir, en fait, de restreindre mes activités. Et j'avais décidé de laisser aller le bye-bye. Et d'autant plus que sur un script presque parfait, je suis maintenant producteur associé. Donc, j'ai un rôle beaucoup plus grand qu'avant à jouer.
Oui, mais tu pourrais te libérer pour un petit sketch quand même.
On verra, mais moi, honnêtement, je me verrais plus faire Horatio Arruda.
Mais non, parce que... Non, regarde. André, laisse-moi t'expliquer le casting. Je l'ai proposé,
oui,
à Jean-Philippe Vautier quand je suis allé à Bonsoir. J'ai dit, écoute, pour le premier ministre Legault, André Ducharme, et pour le docteur Arruda, Marc Hervieux.
OK.
Ben oui, parce que je trouve que physiquement, ils ont la même bouille.
Ben, en tout cas, il n'y a pas la même corpulence, mais ça s'arrange toujours, là.
Oui, mais ça, tu demandes à Marc Hervieux de se rentrer le ventre, je ne sais pas, là.
Ben, c'est plus la largeur qui m'inquiète, moi. Ça, c'est plus difficile.
Alors, mais, toi, tu te verrais en Horatio Arruda.
Ah, moi, c'est sûr que si RBO faisait un bye-bye cette année, j'hériterais du rôle d'Horatio Arruda, c'est certain. Et j'aurais un grand plaisir à aplatir la courbe et à expliquer comment ne pas se mettre un masque. Parce que pendant un certain temps,
oui,
il disait qu'il fallait pas faire ça.
Mais oui, mais
non, il y a des belles contradictions qui ne sont pas nécessairement de sa faute parce qu'il a eu à gérer une situation qui évoluait constamment. Mais il a dit des choses, il a dit le contraire, il est revenu, il est reparti, il a dansé, il a fait plein d'affaires. Écoute, c'est un personnage.
OK, c'est vrai que c'est plus,
oui, oui,
c'est plus souignant que le premier ministre.
Oui, c'est plus dans mon range. Pierre Brassard avait fait un excellent François Legault dans nos bye-bye, d'ailleurs. J'ai l'impression que le rôle lui appartient.
C'est vrai, tu as raison.
Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bon, ça.
André, dans tous ces derniers mois, qu'est-ce que tu retiens de... tu sais, bon, t'as vu évidemment ce qui s'est passé au niveau culturel, t'as vu au niveau de la télévision, les changements, les transformations, les inquiétudes, les angoisses, en fait, l'anxiété qu'on a vécu autour de tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de ça, toi? Qu'est-ce que ça va t'avoir apporté ou... Est-ce que ça a changé ta façon de travailler? Est-ce que ça va changer ta façon de travailler?
Ben, je pense que moi j'essaie de faire abstraction de comment moi je vis cette situation-là. Je pense que tout le monde vit cette situation-là de toutes sortes de façons. Tu sais, oui, on parle beaucoup du milieu de la télévision parce qu'on a eu adapté beaucoup de choses, mais je pense que tous les milieux de travail ont eu adapté beaucoup de choses. Il y a des milieux de travail qui sont même pas encore activés, qui sont même pas encore de retour. Je pense que, tu sais, les restaurateurs vont subir les contre-coups de ça pas mal plus longtemps que les gens de la télévision. Les gens du spectacle, oui, vont avoir à subir ça. Moi, ce que je constate beaucoup, c'est que si cette pandémie-là était arrivée il y a 20 ans, alors que c'était pas possible de faire du télétravail, alors que on n'aurait pas été capable de faire des conférences vidéo en groupe pour continuer de travailler, ça aurait été une catastrophe pas mal plus grande que ce qu'on vit présentement.
Ça, c'est
t'as raison.
Ça,
un
t'as
bon
raison.
Point.
J'avais pas pensé
un
à
bon
ça.
Point, oui.
Si on n'était pas capable de se réunir et de créer des moments magiques. Parmi mes moments magiques, là, en direct de l'univers, et l'émission, et l'émission du lendemain là, à TVA, là, où on a rassemblé chanteurs, chanteuses, musiciens, sans André, là, c'est vrai, quand on y pense, il y a 20 ans, on n'aurait pas été capable de faire ça.
On n'aurait pas été capable. Ça, on n'aurait pas été capable de continuer à faire vivre les bureaux. Ma conjointe est en télétravail depuis plusieurs mois. Si ça n'avait pas été ça, elle n'aurait pas pu travailler, tout simplement. La shop aurait fermé. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité qui ont réussi à continuer, difficilement peut-être, mais au moins à continuer parce qu'on avait ces outils-là. Sinon, peut-être qu'on n'aurait pas arrêté, peut-être qu'on aurait continué de prendre le métro, continué de se promener, continué de se voir, et là, ça aurait été combien fois pire au niveau des conséquences sanitaires?
On va faire une courte pause. Notre invité, André Ducharme, j'avais suggéré son nom pour le bye-bye, pour qu'il campe le personnage de François Legault. Il préfère celui du docteur Arruda. Cependant, André, même si tu dis que tu es un peu réfractaire à l'idée de faire le bye-bye, je crois que je te verrais très bien en train d'écraser la coupe du docteur Arruda, là.
Oui, ça, je me plairais à faire ça.
Tu te rappelles le fameux lundi après-midi de sa conférence de presse? Mais il faut flatir la coupe. Je verrais très bien faire ça.
D'accord, je vais me pratiquer.
Alors, on fait une pause et on revient avec notre invité. Notre ex-confrère de la radio au 98.5, André Ducharme, avec nous. André, est-ce que tu t'ennuies de la radio?
Moi, je m'ennuie toujours de ce que je fais pas.
Alors, une bonne réponse.
Écoute, j'adore faire de la radio, tu le sais, et tu sais ce que c'est le plaisir de faire de la radio, vous le savez tous les deux. Alors, à un moment donné, faut faire ce qu'on est en train de faire, puis le reste, on verra plus tard.
Et souvent à la radio, André, on te demandait de faire des éditoriaux. Hein? On te demandait souvent de te prononcer sur des sujets d'actualité. Ce qui est quand même, au quotidien, là, ce qui est quand même pas facile. Je me souviens que tu l'as fait ici avec nous à un moment donné.
Ouais.
Et c'est quand même très, très demandant, très exigeant.
Ben, c'est quelque chose pour lequel tu dois te préparer quand même pas mal d'heures par jour pour faire une chronique de peut-être 5-10 minutes maximum. Ça demande effectivement beaucoup de temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire, dire, regarde, ben moi, tous les jours, 5 heures, je rentre à la radio, j'y pense 5 minutes avant, puis après ça, je retourne à ma vie.
Non,
c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le fais. Et la chronique, je trouve ça le fun, mais en même temps, comme je dis toujours, je connais pas grand monde qui sont capables d'avoir 365 opinions par année. C'est le piège de la chronique. Hein. Les gens qui en font beaucoup, à un moment donné, tu fais tu vois qu'ils ont pas mal 5-6 sujets autour desquels ils tournent. Puis des fois aussi, tu peux écrire une mauvaise chronique parce que tu en as tellement à faire que oups, tu te trompes.
Il ouais.
y a un piège à la chronique, pour faire attention.
André, on a le plaisir d'être papy tous les deux. Tu as parlé de ton petit-fils. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus pénible ici, à cause du confinement. Et de toutes les mesures qu'on a prises, on ne s'est pas vu beaucoup en famille. Mais par contre, toi, dans ton cas, est-ce que t'es plus inquiet de les savoir si loin à Hong Kong, qui déjà, avant même que nous soyons confinés, luttait désespérément contre l'envahissement de la pandémie? Est-ce que ça ajoute, si on veut, à ton inquiétude?
Ben, en fait, c'est un peu curieux parce que oui, quand tout ça a commencé là-bas, parce que ça a commencé en Asie avant de commencer ici, on était d'ailleurs à Hong Kong au moment, la première fois que j'ai entendu parler de ce virus-là, j'étais en Asie avec ma conjointe, on est revenu quelques jours plus tard, et déjà on voyait qu'il se passait de quoi en ville, là. Les gens se mettaient volontairement d'ailleurs, contrairement à ici, à se mettre des masques, là-bas c'est tout à fait naturel, il y avait beaucoup plus de surveillance au niveau de la prise de température, par exemple dans les aéroports. C'était déjà commencé là-bas. D'ailleurs, ça a été assez contenu. Donc, oui, on était ici, on s'inquiétait pour eux, mais on voyait la situation évoluer. On disait, ah, ben finalement, il n'y a pas tant de cas que ça, il n'y a pas tant de décès. Je pense que la première vague, là-bas, il y a eu 4 décès sur une population de 1,5 million.
C'est vrai. À Hong Kong, c'était un des meilleurs bilans de la première vague.
Absolument, de la première vague.
Ouais.
Quand ça a commencé ici, en fait, la personne qui s'inquiétait le plus, c'était mon fils qui était à Hong Kong qui s'inquiétait pour nous.
À
un moment donné, il nous a appelé, je dis appelé, c'est des vidéoconférences, on se voit tous les jours. Et il a dit, papa, là, je suis inquiet pour vous autres, je vois ce qui se passe en Amérique, je suis très inquiet pour vous. Et finalement, il a eu raison. Mais là-bas, je parlais de la troisième vague. La troisième vague est très, très forte. Là. Présentement, c'est peut-être les mesures de restriction les plus importantes depuis le début de la pandémie, ils les vivent présentement.
De ton expérience, toi qui étais sur place, qui a vu donc l'évolution du coronavirus et de la COVID, c'est-à-dire la pandémie, est-ce que tu crois que nous devons prendre note en ce moment de ce qui se passe? Pas seulement d'ailleurs à Hong Kong, je ne sais pas si tu as vu, André, mais l'Australie a reconfiné pour 6 semaines.
Oui.
Oui.
Ben, tu sais, moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux, puis comme je suis une personnalité puis que je donne mon opinion, évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et beaucoup de gens qui sont dans la résistance par rapport aux masques en se disant, mais regarde, c'est fini, pourquoi on porte des masques? C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Et la raison pour laquelle on doit continuer de se protéger et continuer de maintenir une certaine distance, une certaine prudence, c'est parce que justement, si on ne le fait pas, la deuxième vague, ou appelons ça comme on veut, parce qu'il y en a qui disent c'est pas une deuxième vague, c'est la première qui continue, ça mène aux juste d'affaires. Là. Ça, on ne pourra pas échapper à ça.
Et tu vois.
C'est sûr qu'on ne pourra pas y échapper.
Et je disais, parce que je sais qu'André suit l'actualité au quotidien, il la dévore, la conférence de presse de lundi. François Legault, là, lundi, lui, il sait exactement en ce samedi ce qu'il va dire, parce que Québec est obligé de se préparer pour cette deuxième grande bataille, comme le grand titre de la presse ce matin.
Oui. Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui disent « Ah, les médias veulent faire peur. » Non, les médias font juste transmettre l'information, la vraie, pas celle qu'on trouve en 3 clics sur Google, là, la vraie. Puis oui, c'est plate, mais il ne faut pas confondre le message et le messager.
Est-ce que tu trouves difficile de fréquenter les réseaux sociaux par les temps qui courent?
Oui, je ne le cacherai pas. Et on constate d'ailleurs que de plus en plus de personnalités publiques qui quittent les réseaux sociaux.
Ouais.
Je le comprends, mais je pense que c'est une erreur. Il faut justement pas laisser les réseaux sociaux comment je peux expliquer ça? Faut pas laisser certains courants envahir les réseaux sociaux et les monopoliser.
Ouais.
Faut répondre. C'est plate. Ouais, ouais. Je sais que ça crée des confrontations, puis ça crée des trucs pas le fun.
La ligne de démarcation est mince entre la liberté d'expression et justement une certaine forme de contrôle. Tu comprends?
Ben oui, absolument. C'est sûr. Mais écoute, quand des réseaux sociaux comme Facebook et comme Twitter sentent le besoin de mettre des avertissements à côté de certains messages du président Trump parce qu'ils sont mensongers, et la preuve du mensonge est facile à trouver, là. C'est ça que je trouve un peu aberrant. Des fois, on m'envoie des choses en disant « Regarde, telle information », puis là, je fais juste une recherche inversée. Ça me prend 10 secondes de trouver que c'est pas vrai.
Ben oui.
Ouais,
c'est ça que je trouve particulier.
Ouais, mais on se rend compte que écrire sur un réseau social, c'est-à-dire écrire en 140 caractères et faire une recherche, c'est deux choses. On le voit, là.
Ouais.
Tu sais, il y a comme faire une recherche sur Internet, là.
Ouais, c'est deux choses. André Ducharme, j'espère que tout va bien se passer pour toi et ta famille. D'abord.
Souhaitons-le, écoute. On est tous dans le même bateau, hein.
Oui, nous sommes vraiment, tu l'as dit, des fois, ça nous frappe. Je disais ça à Thérèse l'autre jour. J'ai dit, là, vraiment, tu sais, quand on cherchait tout le temps, André, la façon d'unir le monde, ben, c'est parce que quelqu'un est malade à Hong Kong, ou au Brésil, ou en Afrique. Ça nous touche maintenant. Ça nous touche directement.
Ouais. Ben, je pense que c'est un moment où on se rend compte que on est une collectivité, on est un « nous ». Et d'ailleurs, c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a une petite confrontation entre le « nous » et le « je ». Le « je » étant « j'ai le droit de ne pas obéir aux consignes.
Ouais, »
Je suis plus important que la collectivité. Moi, je viens d'une époque où le « nous » était plus important que le « je ».
C'est vrai, effectivement.
Belle façon.
Mais vous reprenez, tout le monde en parle quand? Est-ce que tu as
C'est à la fin septembre, souper c'est mi-septembre. Je dirais, tu sais, les gens qui disent, hey, as-tu pris des vacances? La réponse, non.
c'est ça. Oh, est-ce que tu vas en prendre?
avant de se quitter, André, est-ce que tu crois que le Canadien va aller encore plus loin?
Oh my God, j'espère que oui, parce que rendu là, aussi bien aller le plus loin possible. Moi, ça m'a mis de bonne humeur de voir du hockey.
Voilà. Ah, moi aussi.
Tout le monde est bon.
Je pense que ça nous a tous mis de bonne humeur. Ça nous a tous
c'est
fait du bien.
C'est totalement absurde.
Ça nous oui, a... c'est... il dit absurde.
Oh oui, mais c'est vrai que c'était surréaliste. Là,
voilà,
ben
arrêtez, Madame.
35 degrés, des victoires.
Madame Thérèse avait prédit la victoire du Canadien
oui,
en
4. Oui, mais j'avais fait rire de moi en masse. Oui,
pour vrai. Oui.
Il y aurait dû perdre. On aurait la première. Non, tu peux pas apprendre à des joueurs à perdre.
Ben non.
Une culture de loser dans une équipe, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit.
Déjà qu'on a de la misère.
André, bonne fin d'été. Merci.
Ben, merci de l'invitation. Bonne fin d'été à vous aussi.
Merci, André.
On se retrouve bientôt.
Oui, on va se retrouver bientôt. André Ducharme, parce qu'on a eu l'idée lorsqu'il s'est mis à tweeter la semaine passée et on trouvait qu'il avait traversé la crise.
Comme beaucoup
de gens ont fait une espèce de petit bilan de la mi-été.
Oui.
Pour citer René Lévesque, le soir du 15 novembre, il dit on ne l'attendait pas comme ça.
On ne l'attendait pas comme ça.
Non, mais je parle l'été, là.
Oui,
on en a plus que ce qu'on espérait.
Oui.
Mais il a rappelé une chose importante. Quand on a des proches à l'étranger, c'est important de regarder ce qui se passe ailleurs. Dans le cas d'André, lui, évidemment, c'est Hong Kong.
On a l'impression, étant donné qu'on est tous dans le même bateau, comme il le dit, ben on est plus proche de ceux qui sont plus loin. Ça, c'est clair.
Alors, la preuve que l'été n'est pas terminée, Yvan Martineau va nous la donner au retour.